Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast du blog progresser-en-orthographe.com. Je suis Avec Appel et dans cette série de podcasts, je vous présente des œuvres incontournables de la littérature qui vous serviront d'exemple pour la troisième partie de l'épreuve écrite de français au CRPE. Aujourd'hui, pour ce tout premier podcast, j'ai eu envie de partir très loin. Au commencement de la littérature avec la mythologie grecque et plus particulièrement Homère avec l'Iliade et l'Odyssée. Il y a 30 siècles, Homère, le plus célèbre poète grec, a écrit l'Iliade et l'Odyssée, deux épopées qui n'ont pas pris une seule ride. Homère a vécu au 9e ou 8e siècle avant Jésus-Christ, ou plutôt aurait vécu au 9e ou 8e siècle avant Jésus-Christ, car aujourd'hui encore, on ne sait pas s'il a réellement existé. L'Iliade et l'Odyssée sont donc les deux épopées d'Homère. Si Netflix avait existé, Homère en aurait fait une série pleine de sang, de trahison et de plans machiavéliques. Tout d'abord, l'Iliade. Saison 1 des deux épopées. Elle nous raconte la guerre de Troie. Mais connaissez-vous les origines de la guerre de Troie? C'est une histoire de jalousie et d'égo. Un banquet est donné chez les dieux. Eris, la déesse de la discorde, n'est pas invitée. Elle décide donc de se présenter malgré tout et elle lance une pomme sur laquelle elle a gravé l'inscription « À la plus belle ». Cette pomme, elle la lance sur la table où se trouve Aphrodite, déesse de l'amour, Héra, l'épouse de Zeus, et Athéna, la déesse de la guerre. Vous imaginez bien la réaction de ces trois déesses. Elles se chamaillent, elles se battent pour savoir à qui cette pomme devait revenir. Finalement, ne parvenant pas à se mettre d'accord, elles décident d'aller voir Zeus pour les départager. Évidemment, Zeus n'est pas fou. Il ne veut pas prendre le risque de froisser deux déesses, les deux déesses qu'il n'aurait pas choisies. Il décide donc de demander à un mortel, Paris, de les départager. Paris est le fils de Priam, le roi de Troie. Les trois déesses vont donc voir le jeune homme et chacune d'entre elles décide de le soudoyer. Aphrodite lui dit, « Si tu me choisis, tu auras la plus belle femme du monde. » Héra lui dit, « Si tu me choisis, tu auras la gloire. » Et enfin, Athéna lui promet la victoire dans toutes les guerres. Paris réfléchit et il choisit Aphrodite pour avoir la plus belle femme du monde. Or, la plus belle femme du monde, c'est Hélène. Mais il y a un léger problème. Hélène est mariée. Paris est donc obligé de l'enlever. Aidé d'Aphrodite, il va enlever Hélène une nuit, la met sur son bateau et l'emmène à Troie. Le lendemain matin, évidemment, quand l'époux Ménélas découvre la disparition de sa femme Hélène, son sang ne fait qu'un tour. Il comprend très vite ce qui s'est passé. Et c'est là le début de la guerre de Troie. Ménélas, le grec, déclare la guerre au royaume de Paris. 3. L'Iliade nous raconte donc cette guerre de Troie, guerre qui dure 10 ans et qui voit, entre autres, l'affrontement terrible d'Achille, le Grec, et d'Hector, le Troyen. Cette guerre donc dure 10 ans et c'est Ulysse, roi d'Ithaque, qui combat aux côtés des Grecs. C'est Ulysse qui a une idée qui va permettre aux Grecs de gagner. Il fait construire une nuit un immense cheval de bois. Dans ce cheval, plusieurs soldats peuvent monter et se cacher à l'intérieur. Une fois la construction terminée et une fois les soldats cachés à l'intérieur, le cheval est laissé sur la plage, négligemment, aux portes de la ville de Troie. Le lendemain matin, quand les Troyens découvrent ce cheval immense, ils pensent que c'est un cadeau des dieux et le font entrer à l'intérieur de la ville. La nuit tombe et quand tout le monde dort, les soldats sortent du cheval et massacrent la ville de Troie. C'est ainsi que se termine cette guerre de Troie et c'est ainsi que les Grecs ont gagné la guerre. La saison 2 de l'œuvre d'Homère, c'est l'Odyssée. L'Odyssée nous raconte le retour d'Ulysse chez lui après la guerre de Troie. Rappelez-vous, Ulysse est le Grec rusé qui a imaginé le cheval de Troie. Ulysse donc est un soldat et le roi d'Ithaque qui se distingue par sa ruse et son intelligence. Lui et ses compagnons reprennent donc la mer après la guerre de Troie et Ulysse veut rentrer chez lui à Ithaque. Mais il va vivre de terribles aventures et il va devoir échapper à de nombreux monstres. Il va devoir échapper aux sirènes, aux monstres marins Charybde et Scylla, à la magicienne Circé, à Calypso. À chaque fois, il va s'en sortir grâce à son intelligence. Au bout de 10 ans, Ulysse parvient enfin à rentrer chez lui et retrouve sa femme, Pénélope, qui l'attend depuis 20 ans, et son fils, Télémaque, qui a bien grandi. Pour comprendre une œuvre littéraire, rien ne vaut sa fréquentation directe. C'est pour ça que je vous propose de vous lire un extrait de l'Odyssée. L'extrait dans lequel Ulysse rencontre le Cyclope. Alors, il faut savoir qu'avant l'extrait que je vais vous lire, Ulysse et ses compagnons sont arrivés sur une île habitée par des géants, les Cyclopes. Ce sont des géants qui n'ont qu'un seul œil. Ulysse et ses compagnons s'installent dans la caverne de l'un d'eux, dans la caverne de Polyphème. Or, Polyphème, ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils du dieu Poséidon. Quand Polyphème revient du pâturage avec ses moutons, il referme la caverne avec un gros rocher. Et là, il découvre Ulysse et ses compagnons et leur demande d'où ils viennent. C'est Ulysse qui raconte son histoire. Notre cœur se brisa d'effroi en entendant la voix terrible du monstre, mais je parvins à lui répondre. « Nous sommes Grecs, et nous revenons de la ville de Troie. Des vents contraires nous ont ballottés sur les flots, et nous nous sommes perdus. Nous venons à toi comme des suppliants. » Le cruel cyclope me répondit alors. « Étranger, tu es bien naïf si tu crois que je vais vous épargner. Dis-moi plutôt où tu as laissé ton navire. » J'évitais son piège et lui répondit à mon tour par ces paroles trompeuses. « Poséidon, le dieu qui ébranle la terre, a brisé mon navire en le jetant contre un rocher. » Le cyclope au cœur cruel ne répondit rien, se leva brusquement, saisit 2 de mes compagnons et les écrasa contre la pierre de la grotte. Il déchira leurs membres palpitants, prépara son repas et, semblable au lion des montagnes, il dévora les chairs et les entrailles. À cette vue, le désespoir s'empara de nos âmes. Quand le cyclope eut rempli son vaste ventre de ses chairs humaines, il but un lait pur, se coucha dans la caverne et s'étendit au milieu de ses troupeaux pendant que nous gémissions. Le lendemain, quand parut l'aurore aux doigts roses, le cyclope alluma de nouveau son bois desséché, saisit deux autres compagnons et les dévora. Puis, le monstre poussa hors de l'antre ses grasses brebis. Il enleva sans effort la roche immense de la porte et la remit aussi facilement qu'il aurait placé le couvercle d'un carquois. Et moi, je restais dans la grotte, méditant ma vengeance. Je taillais en pointe l'énorme tronc d'un olivier verdoyant placé par le cyclope dans l'étable. Je l'endurcis encore en l'exposant à la flamme étincelante. Nous tirâmes au sort ceux qui plongeraient ce pieu dans l'œil du cyclope pendant son sommeil. Le soir, le géant revint en conduisant ses brebis à la belle toison. Il poussa dans la grotte ses troupeaux. Il souleva l'énorme roche, la replaça à l'entrée de sa caverne, s'assit, se mit à traire ses brebis et ses chèvres, bêlantes, et rendit les agneaux à leur mère. Puis, il saisit de nouveau deux de mes compagnons et les mangea. Alors, je m'approchai du monstre, en tenant une coupe remplie d'un vin aux couleurs sombres, et je lui dis « Tiens, cyclope, bois ce vin puisque tu viens de manger de la chair humaine. » Le monstre prit la coupe et but. Ce doux breuvage lui plut tant qu'il m'en demanda une seconde fois. « Verse-moi encore de ce vin délectable et dis-moi quel est ton nom, afin que je te donne comme étranger un présent qui te réjouisse. » Trois fois, j'en donnais au cyclope, et trois fois, il en but outre mesure. Aussitôt que le vin se fut emparé de son esprit, je lui adressai ces douces paroles. « Cyclope, tu me demandes mon nom ? Je vais te le dire. Fais-moi le présent de l'hospitalité comme tu me l'as promis. Mon nom est Personne. C'est ainsi que m'appellent mon père et ma mère et tous mes fidèles compagnons. » Le monstre cruel me répondit « Personne, lorsque j'aurai dévoré tous tes compagnons, je te mangerai le dernier. Tel sera pour toi le présent de l'hospitalité. » Le cyclope tomba à la renverse, dompté par le sommeil. Ivre, il vomit le vin et les morceaux de chair humaine. Je chauffai alors le pieu dans la cendre et rassurai mes compagnons. Quand le tronc d'olivier fut assez chauffé, je le retirai tout brûlant du feu. Mes amis saisirent le pieu pointu, l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope, et je le fis tourner en appuyant dessus avec force. Le sang chaud en jaillit, la vapeur de la pupille ardente brûla ses paupières et son sourcil. Le monstre poussa des hurlements affreux qui firent retentir la caverne. Nous prîmes la fuite, épouvantés. Le monstre appela à grands cris les cyclopes voisins. Ceux-ci, à son cri, accoururent, entourèrent sa caverne et lui demandèrent ce qui le tourmentait. « Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de telles clameurs dans la nuit divine et nous réveilles-tu ? T'as-t-on volé tes brebis ? Quelqu'un veut-il te tuer par force ou par ruse ?» Et le robuste Polyphème leur répondit du fond de son antre « Ô ami, c'est Personne qui me tue par ruse et non par la force !» Ils lui répondirent ainsi « Si Personne ne te fait violence, puisque tu es seul, tu souffres donc de folie. C'est ton père Poséidon qu'il faut supplier. Et moi, je ris au fond de moi, car mon nom et ma ruse les avaient parfaitement trompés. » Pour finir ce podcast, je vous propose de nous poser des questions, de nous demander ce que nous apporte la lecture des mythes aujourd'hui et pourquoi est-ce que les mythes, tels que l'Iliade et l'Odyssée, continuent 30 siècles plus tard de nous fasciner. Eh bien, Je peux apporter trois réponses à ces questions. Tout d'abord, les mythes ont une valeur documentaire. Ils nous permettent de comprendre la culture grecque, et romaine. Par exemple, nous l'avons vu dans l'épisode du Cyclope, l'hospitalité est une notion importante. Les mythes nous apportent la connaissance des dieux, Zeus, Athéna, Aphrodite, etc. Ensuite, comme on peut le voir, les mythes nous proposent des intrigues prenantes où les héros se trouvent face à des situations terribles. Et finalement, Ulysse et les autres héros de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, eh bien, ce sont les super-héros de l'Antiquité. Ulysse, c'est le Superman de cette époque. Et depuis toujours, les super-héros nous font rêver, nous les admirons, nous avons envie d'être eux. C'est un désir universel qui a traversé le temps. Et enfin, la dernière explication. Pourquoi les mythes continuent de nous fasciner? Eh bien, je dirais que les mythes nous expliquent des vérités et des valeurs universelles. Par exemple, l'Odyssée nous montre que même face aux plus terribles épreuves, la ruse, l'intelligence l'emportent toujours sur la force. Et c'est encore vrai 30 siècles plus tard, non? Qu'en pensez-vous? Eh bien voilà, je suis ravie que vous ayez écouté ce podcast jusqu'au bout. Cela veut dire qu'il vous a intéressé. Donc, s'il vous plaît, partagez ce podcast. Et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur vos plateformes de podcast et pour vos commentaires. Cela permettra au blog progresseronorthographe.com d'être le plus connu possible. Et cela me permettra d'aider le maximum d'entre vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt.